Le journal, Laurence Thomas. Bonjour Laurence.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
À la une de l'actualité, finale de l'Eurovision ce soir à Tel Aviv, en Israël. La France croise les doigts. Comme depuis 42 ans maintenant, puisque sa dernière victoire remonte à 1977 et donc la pression est forte sur Bilal Hassani.
Le reste de l'actualité, les commerçants de Montpellier sont en colère, les magasins lourdement impactés par le mouvement des Gilets jaunes ne pourront pas toucher d'aide de l'État car tout simplement aucun dossier n'a été monté auprès de Bercy pour bénéficier de ce fonds de soutien. Et puis nous reviendrons dans ce journal sur le couac de Parcoursup touché par un bug informatique.
Les élections européennes, c'est dans 8 jours et à 8h20 avec Patricia Martin, nous recevrons deux spécialistes des questions européennes, Sylvain Kahn et Jacques Lévy. Ils publient chez Odile Jacob le pays des Européens, avec eux bien sûr les enjeux de ces élections européennes.
France Inter.
C'est ce soir le traditionnel concours annuel de l'Eurovision, 64e édition du nom. La finale a lieu à Tel Aviv, en Israël. La France, qui est représentée par Bilal Hassani, 19 ans, interprète de roi, espère bien mettre fin à 42 années de disette. On le dit tous les ans, mais la dernière victoire française remonte à 1977 avec Marie Myriam. Cette fois, les fans qui ont fait le déplacement en Israël et la délégation française. Eh bien, tout le monde est convaincu que la victoire est à portée de main pour la France. Sébastien Baer.
Et si la France avait trouvé la recette du succès à l'Eurovision? Un chanteur, star des réseaux sociaux qui choisit ses perruques selon son humeur, un titre qui prône la tolérance et une chorégraphie enfin à la hauteur.
Je trouve que cette année, on a eu le truc qui fait que l'on va retenir la chanson à la fin.
Stéphane Chiffre, le président d'Eurofan, la délégation de supporters français.
Il y a vraiment eu à la fois le travail sur la voix, cette mise en scène qui est forte et qui porte la chanson. Cette fois-ci, on a le package complet qui nous a fait défaut depuis vraiment beaucoup d'années.
La personnalité de Bilal Hassani et son homosexualité assumée lui ont valu des insultes parfois sur les réseaux sociaux, mais son profil atypique est un atout, estime Stéphane Bern, qui commentera ce soir l'Eurovision.
C'est bien qu'il soit dérangeant, qu'il soit clivant, parce que l'Eurovision a cessé d'être ce show ringard où chacun faisait envoyer une carte postale de son pays. Si on veut gagner, il faut aussi interpeller les esprits.
Pour échapper à la pression, Bilal Hassani a lui choisi de déconnecter. Depuis 10 jours, il fuit les réseaux sociaux.
Je lis rien, donc j'ai pas lu un avis sur la performance. Ça me détend énormément et j'ai plus l'impression de livrer une performance plutôt que d'être dans une compète avec une pression, avec tout le poids de mon pays. On est en train de respirer que les good vibes, la bonne humeur. Donc honnêtement, pour l'instant, ça va. I am me, and I know I will always be. Je suis free, oui, j'invente ma vie.
Ne me demandez pas qui je suis. Bilal Hassani qui défendra ce soir à Tel Aviv les couleurs de la France. Dans l'actualité, ce 27e samedi de mobilisation des Gilets jaunes, Emmanuel Macron était hier à Biarritz pour préparer le G7 de fin août et il estime que le mouvement des Gilets jaunes n'a plus de débouchés politiques. En tout cas, les militants les plus convaincus n'abandonnent pas la contestation et en dépit de maigres cortèges ces dernières semaines, le noyau dur espère mobiliser à une semaine des élections. Une ville aura du mal à se remettre de ses 6 mois de manifestation. C'est Montpellier. Les commerçants sont amers, ils sont en colère. Ni la chambre de commerce, ni la ville n'a rempli le dossier nécessaire pour leur faire bénéficier du fonds de soutien débloqué par l'État pour les commerçants lésés par les Gilets jaunes. C'est le reportage de Valentin Jamin.
Depuis 27 samedi, les commerçants du centre-ville voient leur chiffre d'affaires chuter, jusqu'à moins 50% pour certains. Alors l'aide de l'État, Alain Simon, gérant d'une boutique de jeux, en aurait bien voulu.
Montpellier est passé à côté. C'est tout à fait dommage parce que les commerçants sont pénalisés par pas mal de choses. Peut-être qu'à un moment, ils vont cesser leur métier à force de se faire taper sur la tête.
Mais ils ne toucheront rien. La ville aurait dû se manifester auprès de l'État pour réclamer des subventions, mais elle n'a rien fait. Pourquoi ? Philippe Sorel, le maire de Montpellier, s'en explique.
Cette question, il faut la poser aux associations de commerçants et à la chambre de commerce et d'industrie qui devaient proposer un projet d'animation nouveau qui aurait pu être financé par l'aide de l'État et qui n'ont proposé aucun dossier. Nous n'avons pas de projet nouveau d'animation.
Les associations de commerçants et la chambre de commerce et d'industrie auraient donc dû monter un dossier, mais André Deljari, président de la CCI, dit ne même pas être au courant.
On n'a jamais été appelé par la mairie à quelque moment que ce soit pour remplir quelque dossier que ce soit. Je ne peux pas aller dans le bureau du maire pour aller chercher un dossier, ça c'est pas possible. Si on m'a m'appelle pour me dire « Président, il faut remplir un dossier avec une animation commerciale », je le fais immédiatement.
Difficile de savoir qui dit vrai dans cette guerre finalement très politicienne qui se joue sous le regard désabusé de commerçants qui, pour certains, ont commencé à licencier.
Valentin Jamin.
Il est 7h05, le journal Laurence Thomas. Laurence, à Milan, Matteo Salvini lance les souverainistes à la conquête de l'Europe.
À une semaine des européennes, le chef de la Ligue, l'extrême droite italienne, rassemble ce samedi à Milan les représentants d'une dizaine de partis souverainistes. La mission s'annonce délicate pour Matteo Salvini et sa principale alliée Marine Le Pen. Avec la présidente du RN, il souhaite réunir l'alliance des 12 partis nationalistes et identitaires, mais les positions divergent sur de nombreux points, comme la discipline budgétaire ou la répartition des migrants déjà présents dans l'UE. Encore 7 jours pleins de cette campagne avant l'élection. Des sondages qui bougent peu et qui mettent Renaissance et Renaissance de la République en marche et le Rassemblement national dans un mouchoir de poche. Alors dans la majorité et au gouvernement, un seul mot d'ordre, tous sur le pont pour mobiliser les électeurs de 2017 qui seraient tentés de rester chez eux le 26 mai. Emmanuel Macron apparaît donc sur les affiches. Édouard Philippe sera dans 4 meetings la semaine prochaine et tout le gouvernement est sommé de battre la campagne à El Gauze.
Ne vous fiez pas à leurs agendas officiels. S'ils paraissent légers, c'est parce que les déplacements de campagne, les meetings, n'y figurent pas. Période de réserve oblige. Or, c'est bien ce qui mobilise le plus les ministres en ce moment. 10 à 15 meetings par jour pour la liste Renaissance. Les véhicules de fonction restent au garage, aucun mélange des genres. La semaine dernière, Sébastien Lecornu, Gérald Darmanin et Didier Guillaume ont ainsi fait le voyage ensemble en voiture de location pour tenir un meeting dans le département de l'Eure. Des ministres en campagne, la REM en a besoin pour faire le plein dans ces salles, affluence moyenne 4 fois supérieure quand un membre du gouvernement est à l'affiche. Des ministres fortement incités à mouiller la chemise, le DRH Macron a déjà prévenu, personne n'est sûr de rester en cas d'échec face à Marine Le Pen. Matignon tient même un tableau Excel pour savoir quel ministre est allé où et quand. Pas pour fliquer, explique l'entourage du Premier ministre, mais pour mieux répartir les forces. Le changement de cap est peu probable, mais le changement d'équipe, ça c'est une menace que tout le monde a parfaitement intégré.
Yael Gauze.
La douche froide, Laurence, pour des dizaines de milliers de candidats de Parcoursup.
Ils avaient une proposition d'admission dans Parcoursup, mais finalement, ils ont reçu hier un message d'erreur. Ils étaient en fait sur liste d'attente. Confusion entre liste d'appel et liste d'attente dans 400 formations, principalement des BTS, des écoles d'art, des écoles d'infirmiers, quelques classes prépa et quelques filières universitaires sélectives. Récit de 3 jours de yo-yo émotionnel pour les candidats avec Sonia Princey.
19h mercredi soir, les premières réponses tombent. Certains candidats sont admis dans des filières sélectives. Ils ont jusqu'à dimanche pour confirmer. Mais jeudi dans la matinée, les équipes en charge de Parcoursup détectent des anomalies. Certaines formations ont accepté un trop grand nombre de candidats par rapport au nombre de places disponibles. Des établissements ont confondu liste d'appel et liste d'attente, si bien que tous les candidats en liste d'attente ont reçu une réponse positive. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le ministère vérifie tout pour rétablir les propositions d'admission exactes. Hier matin, la ministre de l'Enseignement supérieur convoque en urgence les médias et reconnaît une erreur de saisie. Le site est de nouveau actualisé à 12h30 hier. Tous les candidats admis à tort repassent en liste d'attente. Sauf que, nouveau bug, ils sont placés numéro 1 sur liste d'attente en début d'après-midi pour finalement découvrir quelques heures plus tard leur véritable classement, parfois à la 300e place. Le ministère se justifie en disant que l'actualisation a été progressive en 2 étapes, mais ces nouvelles erreurs sèment le doute chez les candidats et leurs familles.
Voilà, Sonia Princey, et à 7h50, on revient sur ce bug de Parcoursup. Patricia Martin recevra Gilles Roussel, le président de la Confédération des présidents d'université.
Et il n'y a pas que Parcoursup qui connaît des problèmes informatiques. La société spatiale californienne SpaceX a dû reporter pour la deuxième fois le lancement des 60 satellites de basse altitude Starlink. Cette mission est destinée à mettre en place un réseau spatial capable d'apporter une connexion Internet haut débit dans des zones non couvertes actuellement. 5 milliards de personnes dans le monde n'ont pas un accès Internet satisfaisant. Et on retrouve Pierre Veille.
C'était le journal de Laurence Thomas, les couleurs du ciel aujourd'hui.
La météo avec Air France. Et la France est plus proche. Envolez-vous du nord au sud et de l'est à l'ouest en moins de 2 heures. Rendez-vous sur airfrance.fr.
On retrouve Jean-Michel Golinski de Météo France. Jean-Michel, difficile d'échapper aux averses aujourd'hui.
Ah, tout à fait Pierre, l'épargne n'est actuellement que le couloir de la Manche, mais cet après-midi l'instabilité va se généraliser en tournant parfois l'orage, notamment dans le sud-ouest des Alpes à la Corse et du nord de la Seine au quart nord-est, avec de la neige à partir de 1800 mètres sur le massif alpin, 1500 sur les Pyrénées. Et puis en cours d'après-midi, les pluies vont redoubler sur le sud de l'Aquitaine. Sous les nuages, les températures matinales affichent une bonne moyenne de 10 degrés. Cet après-midi, il est prévu 14 à 17 dans le sud-ouest et de la Bretagne au centre Val-de-Loire. Ce sera plus doux en allant vers l'est, avec 20 degrés prévus à Dijon, Paris, Lyon et Montpellier, 21 à Lille et à Nancy, et pas loin de 23 degrés sur l'Alsace.